Winter is coming, l'hiver approche, comme le dit la série, et avec l'hiver revient comme chaque année la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Mais les Français et les vaccins, ce n'est pas vraiment l'idylle idéale. La France est le pays du monde où l'on est le plus sceptique sur la dangerosité de la vaccination et la couverture vaccinale recule à peu près partout sur fond d'une politique de vaccination entre obligations et recommandations qui est difficilement lisible. Vaccin, comment lutter contre la défiance? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce problème, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Brigitte Autran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en médecine et en immunologie à l'université Pierre et Marie Curie, membre du comité technique des vaccinations. Nous sommes également avec Frédéric Tanguy. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'unité génomique virale et vaccination de l'Institut Pasteur. Alors avant d'entrer dans le détail de cette défiance entre les Français et la vaccination, je voudrais vous soumettre cette phrase de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui à réception d'une pétition contre la vaccination obligatoire l'an dernier répondait « La vaccination, ça ne se discute pas ». D'où ma question « La vaccination, ça ne se discute pas ». Frédéric Tanguy.
Oui, historiquement, ça ne se discutait pas, c'est vrai, et aujourd'hui, ça se discute. Ça se discute, vous l'avez rappelé, plus en France qu'ailleurs. Ce qui est surprenant, parce que les vaccins qu'on donne en France sont les mêmes que partout ailleurs. Donc, il y a effectivement une suspicion. Ceci dit, les résultats observés au cours des 40 dernières années de l'efficacité des vaccins sur la mortalité infantile et sur les grands nombres de maladies infectieuses transmises parmi les bébés sont absolument spectaculaires. Effectivement, ça peut faire penser que la vaccination, ça ne se discute pas.
Brigitte Autran.
Oui, et je dirais même plus, c'est sur les 120 dernières années que ces résultats de la vaccination sont absolument spectaculaires et ne se démentent pas. Partout dans le monde, les infections reculent grâce au vaccin et on considère que c'est la meilleure arme de protection contre les infections. Donc, la réalité de ces données-là ne se discutent pas. Par contre, effectivement, il faut expliquer les vaccins aux populations.
Alors, c'est ce que nous allons tenter de faire dans l'heure qui nous est dévolue. Nous avons donc souhaité faire, en tout cas de cette émission, non pas du tout un débat pour ou contre la vaccination, puisque c'est un débat qui nous a paru assez stérile. Mais nous avons souhaité, en revanche, pouvoir éclairer plusieurs débats ou plusieurs doutes ou interrogations autour de la vaccination. Ces doutes ou ces questions qui grèvent les statistiques, qui alimentent ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Et nous allons donc tâcher, avec votre accord, d'examiner sereinement les arguments sérieux qui entretiennent cette hésitation pour comprendre comment répondre à ces doutes et donc désamorcer les inquiétudes, parfois légitimes, on le verra, qui planent sur la vaccination. Mais avant tout ça, vous ne pensiez tout de même pas que vous alliez échapper à une petite piqûre de rappel. C'est quoi précisément la vaccination? Ça vient d'où? Puisque vous disiez, Brigitte Autran, que ça fait 120 ans que ça marche. Ça a commencé comment l'histoire
de la vaccination? Alors ça vient d'encore plus longtemps, puisque c'est Jenner qui a inventé le mot de vaccination.
Jenner.
Edward Jenner, qui était un médecin généraliste du Sussex en Angleterre. Et le mot vaccination vient tout simplement du mot vache ou vaca en latin. Et parce qu'il avait observé que un bouton présent sur le pis des vaches pouvait se transmettre aux mains des vachères et des vachers qui traillaient ces vaches, lesquels, vachères ou vachers, étaient eux-mêmes protégés de la variole. Et il a compris qu'il y avait dans ce bouton une substance qui permettait d'être transmise d'homme à homme ou d'animal à homme et qui permettait de protéger, vraisemblablement grâce au système immunitaire, mais il ne connaissait pas le système immunitaire. Donc il a inventé le terme de vaccin à partir de vaches.
D'accord. Ça, c'est la première étape. Et ensuite arrive Louis Pasteur, Frédéric Tanguy.
Effectivement, environ un siècle plus tard, à Louis Pasteur, on passe de l'empirisme à la science. Pasteur était un chimiste. Pasteur séparait les cristaux de tartre et de paratartrate. Il connaissait très très bien la chimie. Il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des produits. Et donc, c'était l'époque où la génération spontanée a été niée. Il a démontré qu'il existait des microbes qui pouvaient se transmettre, qu'on pouvait inactiver, etc. Et Pasteur a utilisé l'observation d'Edouard Jenner pour découvrir qu'à l'intérieur de ce qui étaient les fameuses pustules de la vache, en fait, il y avait un virus qui était très faiblement actif chez l'homme, pas du tout pathogène, et que quand on infectait l'homme avec ce virus, on induisait quelque chose qui protégeait d'une maladie ultérieure.
Et mortel,
très transmissible. Et ce départ, finalement, a permis d'inventer l'immunologie qui s'est inventée à cette époque-là pour essayer de comprendre comment ça marche un vaccin. À cette époque-là, on avait des produits qui fonctionnaient. Pasteur, il avait l'habitude de dire une maladie, un microbe, un vaccin. Quand on a identifié le microbe, on inactive le microbe, on le fait brûler, on le met dans du formol, peu importe. Ensuite, on l'injecte et on protège les animaux, puis l'homme. Ensuite, effectivement, il a fallu comprendre pourquoi. Et un siècle d'immunologie, on ne sait toujours pas comment ça marche, d'ailleurs.
On sait un petit peu, quand même.
Voilà. Alors faisons donc un petit cours d'immunologie appliquée. Comment ça marche concrètement, un vaccin, à l'intérieur du corps? Qu'est-ce que ça déclenche? Pourquoi c'est efficace? Expliquez-nous ça un peu, Brigitte Autran.
Alors, tout d'abord, un vaccin va, et je crois que tout le monde sait à peu près cela, va induire des défenses immunitaires dirigées contre les produits présents dans le vaccin, mais qui vont protéger contre la maladie correspondante. Par exemple, un vaccin contre la rage, le virus de la rage, va protéger contre une maladie qu'on aurait ultérieurement, qui est la rage. Le vaccin contre la variole, dont on a parlé, est inoculé avec un virus inoffensif et va protéger contre une variole qu'on fera peut-être un jour ou qu'on ne fera peut-être jamais. Donc, le vaccin induit des défenses immunitaires qui vont persister très longtemps et qui vont être surtout médiées par des anticorps. Donc ce sont les anticorps que le système immunitaire fabrique qui vont permettre de protéger contre les infections ultérieures.
Alors ce qu'il faut comprendre, si on rentre un peu plus à l'intérieur des mécanismes cellulaires, c'est que grosso modo un virus rentre, la plupart, il faut savoir qu'on est exposé à des virus en permanence, que la plupart ne rentrent pas, et puis certains, à certains moments, pour un certain nombre de raisons, on ne va pas les détailler ici, passent, et il y a deux types de réponses immunitaires. Il y a d'abord les phagocytes. Expliquez-nous tout ça, Frédéric Tangelive. On peut rentrer un peu dans le détail. Pour qu'on comprenne comment le vaccin fonctionne vraiment au niveau cellulaire.
On a des barrières. Donc la peau, c'est une barrière. Les muqueuses nasales, génitales, rectales sont des barrières d'entrée qui fait que, par exemple, la peau, pour infecter, il faut ouvrir la peau. Une bactérie ou un virus ne va pas naturellement pénétrer ou très difficilement. Sur les muqueuses, c'est plus facile. Donc ça, c'est la première barrière qui protège effectivement de l'air ambiant, de ce qu'on va gratter dans la terre, ce qu'on va manger, etc. Une piqûre d'insecte transperce la peau et va transmettre un virus. Donc il faut qu'il rentre. La deuxième barrière, c'est, vous en avez parlé à l'instant, c'est l'immunité innée. C'est-à-dire c'est une immunité qui est très ancienne, qui nous vient de milliards d'années, des bactéries, des êtres unicellulaires, qui sont des systèmes développés par les cellules pour se défendre de produits étrangers, du non-soi, ces cellules reconnaissent ce qui n'est pas du soi et sont chargées de l'éliminer chimiquement. Et ensuite, une organisation supérieure, qui est l'immunité adaptative, qui s'est développée chez les mammifères, et beaucoup chez les mammifères supérieurs, qui est une organisation pour laquelle il faut qu'il y ait une circulation sanguine, des organes lymphoïdes, les ganglions, la rate, l'intestin, etc. Et entre tout ça circule un ensemble de cellules, les globules blancs, les cellules T et les cellules B, qui vont se loger dans la moelle osseuse, dans les ganglions.
Les lymphocytes,
voilà, et qui véhiculent la mémoire et contre les infections qu'on a vu au cours de notre vie.
Et ce sont ces lymphocytes qui vont produire les anticorps qui sont là, qui protègent donc contre les virus, Brigitte Autran.
Et donc ce qu'on peut rajouter, peut-être aussi pour introduire certains composants des vaccins, c'est que notre système immunitaire adaptatif a cette capacité d'alarmer l'ensemble du système immunitaire par l'intermédiaire des phagocytes. Effectivement, comme l'a dit Frédéric, quand un agent infectieux pénètre dans un de nos tissus, nous avons immédiatement des globules blancs qui vont le phagocyter, l'avaler.
C'est la première réponse immédiate.
Et en même temps, ils vont envoyer des signaux d'alarme à l'ensemble, tirer une espèce de sonnette d'alarme pour prévenir le système immunitaire qu'il va falloir mettre en place une réponse immunitaire. Et cette sonnette d'alarme, en fait, elle n'a été découverte que très récemment enfin, disons, à la fin du XXe siècle, ça a été couronné par des prix Nobel, dont un prix Nobel français, Jules Hoffmann, de l'Université de Strasbourg, qui a montré quels étaient les mécanismes moléculaires d'alarme. On appelle ça les toll-like récepteurs. Mais ça existe chez la mouche, ça existe chez les bactéries. Donc, quand un agent infectieux rentre ou un vaccin, le système immunitaire tire la sonnette d'alarme de l'immunité innée. Et ensuite, ça déclenche la production des anticorps et de la mémoire. Et on verra, peut-être un peu plus tard dans l'émission, que c'est aussi le rôle des adjuvants d'alarmer le système immunitaire pour déclencher plus fortement une réponse immunitaire.
On va parler des adjuvants tout à l'heure. Oui, Frédéric Tangier, vous
voulez poursuivre et conclure. C'est une question d'histoire, finalement, parce que l'évolution... l'évolution des espèces, tout le monde sait ça. Petit à petit, les espèces qui se sont maintenues dans un environnement infectieux, parce que finalement, si on fait la biomasse globale sur la Terre, ce qui a le plus de poids sont des virus. Sont des virus qui viennent des océans. Donc, pour que les espèces qui se sont maintenues face à ça ont développé des stratégies et ont coévolué avec ces organismes, ces micro-organismes, des bactéries, des champignons, des parasites, des virus, les encore plus petits et les plus simples. Vous avez des virus qui ont 6 protéines, un seul gène, 6 protéines, et qui sont capables de survivre à travers des milliards d'années, depuis des milliards d'années. Donc, on est le fruit d'une coévolution. Et donc, ces micro-organismes ont imprimé notre système immunitaire et ont appris, finalement, si on est sélectionné sur une boîte de pétri, ceux qui résistent, ils ont des armes très fortes pour résister, qui se sont développées spécifiquement contre ces différentes familles d'agents pathogènes. Et donc, vous savez, quand on fait classiquement, sans vaccination, si on a une variole, on n'en attrape pas une deuxième.
Parce que le système immunitaire a été déclenché une fois, donc le système immunitaire se souvient. Et voilà. Ça me permet de conclure sur les vaccins, puisque le principe de la vaccination, c'est donc d'apprendre à reconnaître une forme de virus. Complétez-moi, Brigitte Autran.
C'est d'apprendre à acquérir la mémoire immunitaire. Donc, moi, ce que je répète très souvent, c'est que le vaccin, ça va conférer un capital de mémoire immunitaire qu'on va garder soit au mieux pour la vie, ça c'est formidable, et c'est le cas de certains vaccins. Parfois, il va falloir des rappels pour maintenir cette mémoire immunitaire en éveil.
Et ce qui est intéressant, maintenant qu'on comprend bien comment fonctionne la vaccination, ce qui est intéressant, moi j'aime bien cette idée, c'est que les débuts de la vaccination obligatoire en France, tout du moins, c'est guidé par un principe patriotique. Hein, c'est-à-dire que c'est après la défaite de 1878, les soldats allemands étaient vaccinés contre la variole, mais pas les Français.
Alors les chiffres, effectivement, ne se discutent pas, et c'est vraiment très parlant. De mémoire, je crois qu'il y a 23 500 Français qui sont morts, soldats français qui sont morts de la variole pendant la guerre de 1870, contre quelques petites centaines de soldats allemands, alors que l'épidémie de variole faisait rage dans l'ensemble des armées françaises et allemandes. Et donc, devant ce désastre, les stratèges de l'armée française ont réalisé qu'il était capital de protéger non seulement les soldats, mais également les populations. Et c'est de cela qu'a découlé l'obligation vaccinale. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la raison pour laquelle les soldats français ne se vaccinaient plus, eh bien, c'est que déjà, ils étaient dans une forme de réaction d'hésitation vaccinale.
À l'époque, donc l'hésitation vaccinale est aussi ancienne que la vaccination.
Absolument, mais ceci est lié au fait que les tout premiers vaccins de Jenner donnaient des effets secondaires et des réactions extrêmement graves, ce qui n'est plus le cas avec les vaccins actuels. Donc devant ce formidable recul de la vaccination antivariolique, l'armée française et les gouvernements français ont pris la décision d'obliger les populations à se vacciner pour pouvoir être protégées.
Alors, il faut dire deux choses. On parlera dans la deuxième partie de cette émission de cette notion d'obligation vaccinale ou non, mais il faut préciser que si la variole a aujourd'hui disparu, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, Frédéric Tanguy, c'est grâce à la vaccination.
Oui, alors
on a réussi à éradiquer totalement.
Absolument.
Une maladie.
Il y a deux maladies éradiquées aujourd'hui. Il y a la variole humaine et il y a la peste bovine. Ce sont les deux seules dont on peut dire qu'elles n'existent plus sur Terre. Alors, c'est à la fois, c'est emblématique et c'est tout à fait exceptionnel, bien entendu, parce que toutes les maladies infectieuses ne présentent pas les caractéristiques qui permettent de l'éliminer complètement. Et puis, c'est aussi par rapport à ce patriotisme, ce que je trouve très intéressant aussi, on a totalement changé d'époque, bien évidemment, et pas que sur le plan de la santé. Et l'histoire de la vaccination, après ce patriotisme, même avant la guerre de 70, de 1870, dans les armées napoléoniennes, on variolisait les militaires en transmettant les boutons des uns aux autres pour les protéger aussi des épidémies de variole. Et c'est vrai que dans les périodes de guerre, ou les périodes de problèmes aujourd'hui, on a à nouveau des problèmes de choléra qui surviennent en Haïti suite
au cyclone
qui vient de passer. Mais on peut citer la guerre de 14 avec la fameuse épidémie de grippe espagnole en 1916-1918 qui a suivi la guerre, qui a fait des ravages. Donc effectivement, il y a un côté militaire. Donc qui dit militaire dit obligation, dit on s'aligne tous, les uns, on est tous égaux, tous pareils. Et en France, on aime bien l'égalité. Et il y a un côté dans la vaccination, années 60, années 70, et là c'est le côté plus hippie, on s'intéresse aux maladies des autres, on va à travers le monde. La variole, on l'a éradiquée parce que tous les médecins de l'OMS de l'époque, du Center for Disease Control, y allaient gratuitement, se payaient leur vol et passaient 3 mois au Bangladesh ou en Éthiopie sur le front de la vaccination. Aujourd'hui, ce serait très difficile à faire. On s'intéresse plus chacun à son quant à soi-même et on préfère se protéger de la vaccination que protéger les autres des maladies graves.
Pour aller complètement dans le sens de Frédéric, il y a eu vraiment un enthousiasme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour dire on a des armes fantastiques que sont les vaccins, il faut absolument s'en servir. Et comme l'a dit Frédéric, c'était vraiment un mouvement de dévouement planétaire où il fallait servir une cause qui était la cause de la prévention des maladies. Et en fait, ça a tellement bien marché que ça fait reculer définitivement certaines maladies comme la variole. Ça a été aussi extrêmement efficace pour faire reculer énormément de maladies. Nous sommes, Frédéric et moi, d'une génération où dans nos classes, quand nous étions à l'école primaire, il y avait des enfants atteints de polio. Des enfants qui avaient vraiment des handicaps phénoménaux. Aujourd'hui, vous n'avez probablement jamais vu d'enfants polio et vos enfants, nos petits-enfants, n'en verront jamais. Donc cette éradication, là on a éradiqué la polio de France, on n'a pas encore éradiqué de la planète, fait que les populations ne connaissent plus la maladie. Alors, je vais raconter un petit souvenir personnel. J'ai été interne à l'hôpital Claude Bernard, qui était l'hôpital de maladies infectieuses, en charge du pavillon des rougeoles en 1980. On y accueillait tous les enfants qui avaient des rougeoles graves dans les hôpitaux de Paris, avec vraiment des pneumonies ou des méningites gravissimes. Et puis en 81, on en a eu moins. En 82, encore moins. Et j'y suis revenue en 83-84. Le pavillon était fermé, tout simplement parce que le vaccin avait été tellement efficace qu'il n'y avait plus de rougeole.
Oui,
il a suffi que la population oublie la rougeole et dise bah, pourquoi vacciner contre la rougeole, et hop, la rougeole est revenue. Donc il y a, comme l'a dit Frédéric, des maladies qu'on ne peut pas éradiquer, mais pour lesquelles il faut maintenir la vaccination, même si le spectre de la maladie a reculé.
Oui, puisque la rougeole tuait dans les années 70, et effectivement ça a l'air incroyable, mais dans les années 70, la rougeole tuait 2,5 millions d'enfants par an aujourd'hui au monde. Oui, au monde, évidemment, pas en France. Aujourd'hui, on en est à 120 000, et puis il y a eu un pic, mais on en reparlera certainement tout à l'heure, dans les années 2010, de retour de la rougeole. Alors,
vos chiffres, ils sont très importants parce que 120 000 divisé par 2,5 millions, ça veut dire 96%
d'éradication.
C'est pas l'éradication, c'est l'élimination, c'est du contrôle. Donc ça, c'est vraiment une preuve magistrale de l'efficacité, en tout cas pour la rougeole. Et la rougeole, c'est pas une maladie bénigne comme on croit aujourd'hui, c'est une maladie grave, 2,5 millions de morts par an d'enfants, c'est plus que le sida, la tuberculose et le palu réunis aujourd'hui. Donc c'est monstrueux, vous voyez.
Ceci étant posé, on est là pour prendre à bras-le-corps les doutes qui conduisent aujourd'hui les Français à être le premier pays en termes d'hésitation vaccinale. Est-il vrai aujourd'hui, Frédéric Tanguy, Brigitte Autran, que la vaccination recule en France? Frédéric Tanguy.
Elle recule. On a beaucoup de mal à vacciner contre l'hépatite B, par rapport à de nombreux pays, même si on vaccine bien contre l'hépatite B. On a beaucoup de mal avec le papillomavirus, HPV. Et on a encore du mal avec, oui, la rougeole de temps en temps. Honnêtement, la grippe, c'est pas non plus génial. Mmh. On peut dire qu'on a du mal partout, finalement.
Sauf dans quelques cas de vaccination qui font partie de ces vaccinations obligatoires de la petite enfance, où là, effectivement, le calendrier vaccinal est a priori extrêmement bien respecté dans nos populations. Je voudrais revenir sur le fait que je crois que la grande cause de l'hésitation vaccinale dans nos pays, mais elle existe aussi ailleurs, il ne faut pas non plus se battre trop la coulpe, c'est vraiment lié à l'efficacité de la vaccination. C'est parce que les maladies infectieuses ont reculé de façon étonnante qu'on ne comprend plus pourquoi il faut se vacciner.
Alors, on va prendre cas par cas les trois vaccins que vous venez de citer, Frédéric Tanguy, l'hépatite B, le papillomavirus et la grippe. Il s'avère que dans ces trois cas, il y a eu en France et en Occident, mais en France en particulier, des soupçons. Alors commençons peut-être par la vaccination saisonnière, par la grippe. La grippe, il y a eu cette grande campagne d'alerte au virus H1N1 en 2009 qui a fait un flop. Est-ce que ça explique pour vous une partie de la défiance qu'il y a aujourd'hui ? En chiffres, près de 60% pensent que le vaccin, 60% des gens interrogés par une enquête pensent que le vaccin contre la grippe peut présenter des risques pour la santé.
Oui, je voudrais répondre parce qu'en plus, j'assume ma responsabilité. Je fais partie du comité technique des vaccinations qui a fait les recommandations. Il ne faut pas confondre la vaccination saisonnière contre la grippe et la vaccination pandémique. Donc, on prend les choses une par une. La vaccination saisonnière contre la grippe s'adresse à qui ? Elle ne s'adresse pas à la totalité de la population. Elle s'adresse aux populations fragiles qui risquent de faire des grippes graves. Qu'est-ce que c'est qu'une grippe grave ? C'est une grippe mortelle. Il ne faut pas mâcher ces mots. C'est une grippe mortelle. Donc, les personnalités fragiles sont les sujets âgés, les petits-enfants atteints de maladies sévères, et puis, quels que soient leurs âges, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques du cœur, des poumons ou de différents organes, et des personnes en surpoids. Je travaille dans un hôpital à Pitié-Salpêtrière où il y a 150 lits de réanimation. Je peux vous dire que chaque année, nous voyons mourir des sujets de grippe.
On a les chiffres de la mortalité de la grippe en France chaque année. Vous les avez en tête, Frédéric Tanguy ?
Je crois que c'est 2-3 000 morts.
D'accord. Oui, alors c'est très difficile à estimer puisque les morts sont souvent indirectes. Donc la vaccination saisonnière contre la grippe, elle s'adresse à ces populations-là, plus au personnel de santé, pour protéger ces populations-là, tout en se protégeant eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous, personnel de santé, nous sommes plus exposés que la population générale à la grippe, et donc nous avons plus de chances de faire la grippe, et donc plus de chances de faire une grippe grave que la population générale. Voilà. Et la vaccination pandémique, c'est tout autre chose.
Donc ça a été, bon, alors ne revenons pas sur H1N1, ça a été un raté de santé publique, ça en arrive, ça a été un raté qui n'a pas eu de conséquences sanitaires, ça n'a pas blessé ou tué des gens, mais ça a été un raté. Toujours est-il qu'on entend parfois, comme l'année dernière par exemple, que le virus de la grippe est un virus très évolutif et que parfois les vaccins sont inefficaces. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Frédéric Tanguy ?
C'est un raté, c'est pas la façon de dire, c'est une chance. Mais parce que finalement, H1N1 n'a pas tué les populations.
Exactement.
Donc, heureusement, parce que si ça n'avait pas été un raté, il y aurait eu beaucoup
des
de morts.
Des millions de morts.
Donc, il ne faut pas le présenter comme ça. Peut-être la campagne.
C'est une campagne ratée, mais c'est une chance pour la santé publique.
La campagne a été peut-être mal faite, c'est difficile de juger. Bon. Mais là, effectivement, Brigitte a raison, entre la vaccination saisonnière et la pandémique, c'est tout à fait autre chose. Saisonnière, c'est le même virus qui revient tous les ans, avec une toute petite modification. Variation. Pandémique, on change de virus. Et une pandémie peut effectivement entraîner des très grandes mortalités.
Sur cette question, donc, de l'efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière, compte tenu de l'évolution de l'adaptabilité du virus de la grippe. On a entendu, par exemple, l'année dernière, dire que le vaccin était moins efficace parce que la souche qui a contaminé la majeure partie des gens n'était pas la souche qui était prévue par le protocole de vaccination, Brigitte Autran.
Oui, tout à fait. Mais malheureusement, c'est l'impondérable qu'on ne peut pas éviter. Et c'est vrai que la vaccination contre la grippe n'est pas une vaccination parfaite. On estime qu'elle a une efficacité protectrice d'environ 60%. La raison en est, bien sûr, lié à la variabilité de ce virus. En fait, comment fait-on un vaccin contre la grippe ? Eh bien, On collecte toutes les informations d'une saison grippale, par exemple la saison 2016. À la fin de la saison grippale, on cumule toutes les données qu'on a et on fait une hypothèse sur le virus qui sera responsable de l'épidémie suivante. Mais ça n'est qu'une hypothèse la plus probable. On n'a pas d'autre moyen de procéder. Si on attend que le virus de la saison prochaine arrive, c'est trop tard. Et donc, voilà, on se trompe de temps en temps. Et quand on se trompe, eh ben, l'efficacité est moins bonne.
Passons à un autre vaccin, une autre question, le vaccin de l'hépatite B. Un lien a été fait entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques, ce qui explique une partie de l'hésitation vaccinale autour de ce vaccin-là. Ce lien, Frédéric Tanguy, il est avéré ?
Non. Un lien a été fait effectivement dans les années 80, au tout début de la vaccination hépatite B, à une époque où on a commencé par vacciner des adultes, ou en tout cas des jeunes adultes, aux alentours de la vingtaine. Et il se trouve que finalement la sclérose en plaques, c'est une maladie qui se déclare chez l'adulte jeune. Donc si vous prenez une population vaccinée, vous aurez inévitablement des personnes qui vont déclarer une sclérose en plaques dans les 15 jours ou les 3 semaines qui vont suivre la vaccination.
Statistiquement, vous voulez dire ?
Voilà,
c'est juste une variation statistique.
Absolument. Enfin, c'est pas le mot, mais c'est juste que c'est une association parce qu'on a fait la vaccination à cet âge-là. Les chiffres n'ont pas changé depuis que maintenant la recommandation de ce vaccin, il est chez les bébés, parce qu'on sait que l'immunité tient le temps nécessaire pour éviter l'infection par le virus de l'hépatite B. Cette observation n'a été faite qu'en France, alors que le même vaccin a été administré dans le monde entier. Donc vous voyez bien que ça n'a aucun sens. C'est un chiffre qui est sorti de nulle part, qui est sorti effectivement d'une corrélation, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'une corrélation, mais d'une association d'un nombre de scléroses en plaques qui surviennent après la vaccination. Donc c'est dû à la vaccination, mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux. Depuis, c'est parfaitement non démontré, c'est-à-dire qu'une étude, une énorme étude mondiale, qui sur des millions d'individus vaccinés par l'hépatite B n'a montré aucune association avec la sclérose en plaques. Alors c'est vrai qu'en matière de médecine préventive, quand il y a eu, il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, quand il y a eu un problème qui est survenu une fois, ensuite ce problème se maintient. Or, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune association entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B.
Brigitte Autran ?
Oui, je crois que pour prolonger ce que dit Frédéric, il faut bien reconnaître que la sclérose en plaques, c'est une maladie gravissime, c'est un drame dans la vie d'une jeune fille, c'est souvent les jeunes filles qui sont touchées. Et comme toujours, hein, quand on est tous touchés de temps en temps par des maladies graves, on a besoin, l'être humain a besoin de trouver un coupable. Et donc, chaque famille se pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu causer ? Et donc, on cherche un événement. Et souvent, l'événement le plus marquant qui a eu lieu dans les semaines qui précèdent, eh ben, c'est le vaccin. Et on dit, ah, il y a eu un vaccin et la question, l'observation s'est répétée. Mais ça aurait pu être, j'ai mangé des carottes au lieu de manger des choux. Voilà. Et donc, cette association, elle est purement... C'est une association, mais c'est ce qu'on appelle une association purement temporelle, qui n'est pas de causalité. La même observation a été faite à nouveau en France, mais aussi au Japon, pour le vaccin contre le papillomavirus. C'est-à-dire que finalement, la population française a admis avec les médecins qu'il n'y avait pas de relation directe entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Et puis, ce même spectre, comme dit Frédéric, ce même spectre d'association, bah, il a été reporté sur le vaccin contre le papillomavirus.
Frédéric Tanguy.
Oui, vous avez dit c'est une maladie auto-immune. Donc finalement, immunité, ça fait peur. Vaccin, l'immunologie. On dit
c'est
donc
pour ça que je le précise.
Qui déclencha les vaccins ?
Il y a un lien de causalité. Mais là,
il y a une chose très importante.
Lien de causalité.
Une chose très simple et très importante pour rassurer à dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez eu un bébé à la crèche ou au jardin d'enfants. En ce moment, moi, j'ai une petite fille. Toutes les semaines, pendant 3 jours, elle a 38,5 de fièvre. Et on ne sait pas on voit pas ce qu'elle a. Mais je peux vous dire qu'elle est infectée par des bactéries, par des virus, par tout ce qui passe autour. Et l'immunité qui est émise à ce moment-là est colossale à côté de celle qui va être émise par une petite vaccination, même par 10, 20 ou 50 vaccinations. Et pourtant, ça déclenche pas de maladie auto-immune. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que le mot est commun aux deux expressions que ça puisse être relié.
Et puis on va aborder aussi l'autre grande critique, peut-être la critique majeure, puisque vous parliez du vaccin contre le papillomavirus, c'est la question des adjuvants. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un adjuvant, Brigitte Autran ?
Alors, Oh, il faudrait presque poser la question plutôt à Frédéric, qui est un pastorien, parce que c'est la liste
qu'est-ce que c'est qu'un adjuvant en quelques mots?
Un adjuvant, c'est un produit qu'on rajoute au vaccin. Vous avez bien compris, enfin, j'espère que les auditeurs ont bien compris qu'un vaccin, c'est un petit morceau du virus, ou le virus lui-même inactivé ou atténué, selon la méthode jennérienne puis pasteurienne. On met un petit peu du microbe dans le bras pour induire une immunité qui va nous protéger toute la vie.
Pour que les fameux lymphocytes puissent produire les anticorps contre douanes.
Le vrai microbe quand il va survenir un jour vraiment infectieux et dangereux. Donc ça, c'est du matériel biologique. C'est de la culture, c'est du microbe, vous voyez, c'est des protéines, c'est du virus, etc. Souvent, pas dans tous les cas, donc quand il y a trois façons, il y a du microbe vivant, inactivé ou atténué. Quand il est inactivé, la réaction immunitaire induite n'est pas suffisante pour protéger pour toute la vie. Donc il faut faire des rappels. La rougeole, on l'a une fois dans sa vie, les oreillons, la rubéole, la polio, on reçoit ça une fois dans sa vie et on n'a pas besoin de faire de rappel. La fièvre jaune, quand on voyage en Afrique, une injection et pour toute sa vie, on est protégé de la fièvre jaune. Par contre, le tétanos, la diphtérie, il faut revenir dessus. Ça, ce sont des protéines. C'est moins puissant, c'est moins actif qu'un virus entier inactivé. Donc, on rajoute dedans de la chimie, un peu de chimie, effectivement, qui va donner un peu de force à l'immunité. Et particulièrement, on a parlé tout à l'heure de l'immunité innée, plus que de l'immunité adaptative. Effectivement, si on gratte un peu l'immunité innée, ça va aider à stimuler l'immunité adaptative. Donc, classiquement, les premiers adjuvants, je crois qu'ils datent des années 30, on a mis de l'hydroxyde d'aluminium, c'est rien, c'est des sels d'aluminium en dose très très faible.
J'ai une petite anecdote pasteurienne à raconter, moi qui ne suis pas une pasteurienne, ou un petit peu. C'est Gaston Ramon, qui était un élève de Pasteur, qui a inventé la méthode des adjuvants. En fait, il essayait de produire du sérum antidiphtérique et antitétanique, antidiphtérique chez des chevaux, et puis il injectait de l'anatoxine diphtérique à ses chevaux, donc de la protéine, mais ça n'induisait pas beaucoup d'anticorps. Et un jour, on raconte qu'il était dans sa cuisine et qu'il a vu Madame Ramon faire de la purée de tapioca. Et comment a-t-il fait ? Madame Ramon a fait pleuvoir de la farine de tapioca dans du lait et Gaston Ramon a regardé ce que ça faisait. Et la farine de tapioca floculait dans l'eau. Et il s'est dit, mais bon sang, bien sûr, je vais faire la même chose avec mon anatoxine diphtérique. Et donc, il a mélangé de la farine de tapioca avec de l'anatoxine diphtérique. Il a injecté ça à ses chevaux. Et les chevaux ont fait une énorme réaction et produit des quantités d'anticorps suffisantes pour protéger. Et de cette observation-là, bien sûr, on en a déduit qu'il fallait utiliser des produits un petit peu plus purs que la farine de tapioca. Il avait même utilisé du pu pour arriver à activer.
Délicieux. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que, il faut le redire, hein, c'est pas évident, il n'y a pas d'adjuvant dans tous les vaccins.
Non, les vaccins vivants n'ont pas d'adjuvant. Le ROR qu'on donne à tous les bébés est sans adjuvant.
Le
vaccin contre la grippe
n'a pas d'adjuvant.
Voilà. Et tous les adjuvants ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de types d'adjuvants. Il y en a deux, trois qui sont commercialement admis et qui ont une très très longue histoire. Donc là aussi, il faut rassurer, une très très longue histoire. Actuellement, il y a des nouveaux adjuvants qui arrivent petit à petit sur le marché, qui font très peur, effectivement, parce qu'ils sont nouveaux. Comme tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Voilà, un adjuvant, c'est énormément testé. Ça a subi des essais cliniques énormes sur des milliers, des dizaines de milliers d'individus avant d'arriver dans le bras du patient lambda. Donc on connaît les niveaux d'effets secondaires. Si des effets secondaires sont observables, ils ont été notés, ils sont indiqués sur les fiches techniques des produits. Et en particulier, ils sont parfaitement contrôlés, parfaitement suivis. Donc c'est vrai, la suspicion de mélanger un nouveau produit, il y a un débat. Moi, je trouve qu'il y a un débat, effectivement, à avoir avec les industriels. Parce que c'est plus facile à préparer un adjuvant chimique que préparer un virus atténué. Bien évidemment, c'est plus reproductible, les contrôles de qualité sont plus faciles, les usines à construire pour manufacturer ça sont plus simples. Donc il y a un vrai débat, mais après c'est une question de coût de l'industrie aussi, du prix des médicaments et de rapport bénéfice-risque. Toujours, quand on est ensemble, ça c'est très important, on est dans la santé publique, pas dans la santé individuelle. Il faut savoir qu'un vaccin, je me vaccine pour me protéger, mais aussi pour protéger mes voisins. parce que le virus ne passera pas par moi, c'est la campagne de Pasteur, il passera pas par moi, donc il n'ira pas chez vous. Donc on est dans la santé publique. Donc qui dit santé publique dit décision de ministre, décision de gouvernement, mesure du coût-bénéfice-risque. Que coûte un médicament? Qu'est-ce qu'il rapporte à la population générale? Et qu'est-ce qu'il coûte à la population individuelle?
Il y a un adjuvant particulier qui pose problème et qui revient dans l'hésitation vaccinale dès qu'on commence à chercher un peu. Ce sont les adjuvants aluminiques hein, qui sont accusés notamment dans un livre par le docteur Romain Gérardi d'être à l'origine d'une pathologie, la myofasciite à macrophage. Et on voit bien, hein, quand on parcourt ce livre, qu'on y retrouve toute une partie de l'arsenal argumentaire des anti-vaccins, notamment le fait qu'il y a une sorte d'omerta, c'est-à-dire d'impossibilité de prendre la parole pour critiquer non pas le principe de vaccination, mais la question des adjuvants et notamment des pathologies qu'ils pourraient induire. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là, Brigitte Autran?
Alors, tout d'abord, nous débattons souvent, le professeur Gérardi et moi, sur ce sujet. Mais pour aller plus loin, il n'y a pas de vaccin sans adjuvant.
C'est-à-dire que vous m'avez dit l'inverse tout à l'heure. Alors
bien sûr. Donc je vais essayer d'expliquer ce que je viens ma propre contradiction. Quand un vaccin n'a pas d'adjuvant, c'est qu'il contient en soi ses propres adjuvants. Donc nous n'avons pas besoin de rajouter un adjuvant chimique pour faire le job. Mais un vaccin sans adjuvant n'existe pas. Donc un vaccin vivant atténué, on n'a pas besoin de lui rajouter de l'adjuvant parce qu'il a ses propres adjuvants. Voilà. Donc, on ne peut pas, il faut pas oublier ça. Et il ne faut pas se tromper de cible. Un vaccin, forcément, doit comporter de l'adjuvant, qu'il soit ajouté ou qu'il soit inscrit dans la structure même du vaccin que vous avez produit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les vaccins, les adjuvants à base de sel d'aluminium. Comme l'a dit Frédéric Tanguy, ces adjuvants ont été imaginés dans les années 27, je crois, ou 28. Donc, nous avons presque 100 ans de recul avec des obligations vaccinales ou des campagnes de vaccination touchant la terre entière, les populations entières. Donc ce sont des milliards d'individus qui ont été vaccinés avec les sels d'aluminium. Ce que rapporte le professeur Gérardi, c'est une manifestation qu'il appelle la myofasciite à macrophage, qui est d'abord une réaction inflammatoire au site d'injection. Et le professeur Gérardi a trouvé des traces de sels d'aluminium provenant des injections vaccinales dans cette réponse inflammatoire. On sait que les sels d'aluminium vont rester dans la peau extrêmement longtemps ou dans le muscle extrêmement longtemps. Donc oui, il y a bien une association, c'est un petit peu ce qu'on discutait tout à l'heure, il y a bien une association entre la présence de sels d'aluminium et cette lésion de myofasciite à macrophage. Maintenant, il n'y a aucune relation, aucune association rationnelle entre les symptômes généraux, c'est-à-dire mal dans les jambes, mal dans la tête, des troubles de la mémoire, etc., et cette lésion liée à la présence de sel d'aluminium. Donc, il ne faut pas extrapoler. La méthode scientifique fait que nous devons rester rationnels et nous devons rester...
Rationnel.
Voilà.
Mais un mot pour conclure là-dessus, parce que j'aimerais qu'on parle tout à l'heure. On va entendre justement un reportage dans quelques instants pour qui permet de faire l'économie, ou vous allez nous dire si c'est une vraie économie des adjuvants, mais qu'on dise un mot aussi de l'obligation vaccinale et de la politique de vaccination. Mais l'argumentaire qui est déployé par le professeur Gérardi ainsi que par un certain nombre de gens qui sont des hésitants vaccinaux, si on peut les nommer ainsi, sont que dès qu'on commence à critiquer la vaccination, on est face à une sorte d'omerta générale, c'est-à-dire que tout le monde, les pouvoirs publics, les laboratoires pharmaceutiques sont de mèche et cachent des résultats. Vous voyez bien qu'il y a une suspicion générale face à une forme d'uniformité ou d'unanimité.
De pensée unique.
Voilà. Et donc, il faut peut-être dire un mot de ça, Frédéric Tanguy.
C'est parce qu'on s'attaque à quelque chose d'énorme. C'est comme si un médecin disait « c'est plus la peine de se laver les mains avant de rentrer au bloc opératoire ». Tout le monde lui rentrerait dedans. Et on ne se poserait pas la question, vous voyez. C'est parce qu'on s'attaque, en se disant ça, le professeur Gérardi attaque quelque chose qui a fait ses preuves pendant un siècle, qui est une méthode médicale absolument validée. Il n'est pas question d'omerta ou de dire il n'y a pas le droit. Il publie ses papiers, il est écouté, il publie des livres, il a même une énorme audience, bien plus que les vaccinologistes au plan médiatique d'ailleurs, parce que finalement les mauvaises nouvelles sont mieux divulguées que les bonnes nouvelles, comme toujours. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'omerta. Mais imaginez qu'un jour quelqu'un publie un livre en disant « c'est pas la peine de se laver les mains quand on va farfouiner dans le foie d'un type qu'on opère ». Mais évidemment que tout le monde essaierait de le faire taire. On en est là, c'est ce niveau-là. Donc il y a pas d'omerta, tout le monde peut publier ses travaux. Il y a même eu dans les années 78-80 un médecin britannique qui a publié que le vaccin ROR était responsable de l'autisme, et ça a entraîné 25% de diminution des vaccinations contre ce vaccin en Grande-Bretagne, et ça a entraîné environ 10 ou 15 000 morts au cours de 10 ans. Et le type a été déchu de tout, il a été interdit de pratiquer la médecine, parce qu'il y a une certaine limite quand même à dire n'importe quoi.
Car c'était faux.
Parce que c'était faux, naturellement, et ça a été démontré que c'était faux. Donc, c'est pas qu'il y ait une omerta et qu'on peut rien dire. Gérardi, il dit ce qu'il veut. Professeur Joyeux, il dit ce qu'il veut. Et ils ont une grosse audience, ces gens-là.
Là où je rejoins tout à fait le professeur Gérardi, c'est que on n'a pas complètement compris comment fonctionnent les adjuvants et les vaccins, même si on a compris les grandes lignes. Et donc, il faut continuer à faire de la recherche pour comprendre mieux comment ça marche. Il faut aussi faire de la recherche, pourquoi pas, pour améliorer les adjuvants. Voilà, tout à fait d'accord.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Eh bien, figurez-vous, à 16h41, nous sommes toujours, je vais le redire tout de même, en train de parler, vous l'aurez compris, de la vaccination et de la défiance toute française envers la vaccination au moment où débute la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Nous sommes avec le professeur Brigitte Autran et Frédéric Tanguy, également directeur de recherche CNRS et à l'unité génomique et virale des vaccinations de l'Institut Pasteur. Figurez-vous donc qu'il est possible d'envisager, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça, Brigitte Autran, une suppression de tous les adjuvants, presque, grâce à une nouvelle méthode de vaccination. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Parce qu'on peut-être qu'un jour, on ne dira plus piqûre de rappel, Antoine, mais patch de rappel.
Ben, c'est l'idée en tout cas de DBV Technologies, qui est une société biopharmaceutique qui vient de lancer une phase de test préclinique pour un vaccin par patch. DBV Technologies était déjà connue pour son patch Viaskin qui permet de traiter des allergies alimentaires chez les enfants. Mais cette fois, le projet, qui en est, je le rappelle, dans une phase de test, est de faire de ce patch un rappel de vaccin contre la coqueluche, une maladie respiratoire très contagieuse.
Et quels sont donc les avantages de ce patch, Antoine ?
Eh bien, tout d'abord, pour ceux qui ont peur des aiguilles, il suffirait de se coller le patch dans le dos pendant 48 heures. Ensuite, ce vaccin serait sans adjuvant, mais les avantages ne s'arrêteraient pas là, puisque ce patch n'a pas besoin d'être conservé à une certaine température. Il rendrait donc possible des campagnes de rappel de vaccination importantes, notamment dans les pays en développement. On écoute donc tout de suite Pierre-Henri Benamou, qui est médecin et président de DBV Technologies.
Le patch, ça se présente sous la forme d'un disque en plastique qui fait environ 2 cm de diamètre, qui est donc un tout petit patch. C'est un patch qui ne contient aucun adjuvant, aucune espèce de substance qui pourrait abîmer ou agresser la peau. Et le patch est maintenu pour l'application vaccinale pendant 48 heures d'affilée. Et l'antigène qui permet de vacciner diffuse dans la peau sans qu'il y ait besoin d'injecter ou même sans adjuvant. Vous savez que ça, c'est un grand problème dans la vaccination aujourd'hui.
Est-ce que c'était une évidence de choisir la coqueluche comme première maladie pour tester ce vaccin ?
Alors c'est un petit peu pour deux raisons. D'une part parce qu'il y a un besoin médical évident, vous savez que la fréquence de la coqueluche augmente de façon très importante, que cela concerne les jeunes adultes, et les jeunes adultes sont mal protégés contre la coqueluche, donc on a pensé que le patch serait bien adapté à des gens de cet âge-là. Et également, ils sont en âge d'avoir des enfants, et les enfants qui sont vaccinés dès le premier mois ne commencent à être réellement protégés qu'au bout de quelques mois. Donc ça devient vraiment un enjeu de santé publique, parce que les bébés qui sont atteints de coqueluche ont souvent des infections qui sont très sévères. Dans la coqueluche, la vaccination aujourd'hui est faite avec un antigène atténué, ce qui fait que la réponse immunitaire est un peu amortie, et surtout qu'elle se perd avec le temps et qu'il faut faire de fréquents rappels. Et notre patch ne permet pas de faire la première vaccination chez les bébés, mais par contre permet d'entretenir la réponse immunitaire, et cela sans aucune empreinte forte sur le système immunitaire.
Donc, si je comprends bien, ce patch, pour l'instant, ce serait, aurait une fonction de rappel. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de transformer en un premier vaccin?
Alors, c'est pas la vocation du patch. L'idée, c'est d'avoir un système pour faire des rappels très simples, sans injection, sans adjuvant. Un des grands problèmes qui se pose aujourd'hui à la vaccination, c'est ce qu'on appelle la chaîne du froid, c'est-à-dire le maintien d'un système actif. Et pour les vaccinations de grandes populations, en particulier dans les pays en développement, c'est un problème qui est extrêmement aigu. Et ce patch est extrêmement stable et n'a pas besoin d'être conservé dans des conditions particulières. Donc il a beaucoup d'avantages.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la phase de test de ce vaccin par patch ?
Ce vaccin est actuellement testé à Genève. On travaille avec pratiquement la meilleure équipe du monde. Le professeur Claire-Anne Sigrist et le professeur Paul-Henri Lambert sont des autorités reconnues dans le domaine. Ils travaillent aussi très étroitement avec l'OMS. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une étude de preuve de concept. Et on fera, bien sûr, si tout va bien et si les résultats sont en rendez-vous, une étude à bien plus large échelle qui se fera probablement dans plusieurs pays. L'un des problèmes quand on développe le vaccin et qu'on n'est pas une grande société pharmaceutique, c'est qu'on n'a pas en propre d'antigène vaccinal. C'est-à-dire que tout ça est très protégé par beaucoup de droits et donc on est obligé d'aller chercher des partenaires un peu loin. C'est ce qu'on a fait puisque on s'adresse à un partenaire thaïlandais qui a développé une protéine recombinante, c'est-à-dire une protéine de synthèse qui permet de vacciner en toute sécurité.
Alors ce patch, Brigitte Autran, Frédéric Tanguy, c'est le futur de la vaccination ?
Alors c'est très intéressant, nous-mêmes dans notre équipe de recherche avec le docteur Combadière à la Pitié-Salpêtrière, nous développons également une approche équivalente. Je crois que là, je vais reprendre ma contradiction de tout à l'heure. Le patch sert d'adjuvant parce qu'il va aller activer des cellules de la peau qui sont très puissantes pour activer le système immunitaire. Donc on reste dans la même problématique. En fait, il n'y a pas de vaccin sans adjuvant, mais le patch va servir d'adjuvant. Et bien sûr, c'est bien plus confortable de se mettre un patch. On n'est pas complètement sûr que l'on pourra effectivement utiliser des patchs, car la grande difficulté, c'est d'appliquer la bonne quantité, être sûr que la bonne quantité de vaccin pénètre bien dans la peau. Et ça, c'est vraiment une dimension, une difficulté très importante qui fait qu'il peut y avoir des irrégularités dans l'efficacité de ces patchs. Donc voilà, c'est très intéressant, mais il faut être encore prudent sur cette approche.
Dans les 10 dernières minutes, un peu plus qui nous reste, j'aimerais qu'on parle un peu aujourd'hui donc de la vaccination en France et de la politique de vaccination. Il y a en France aujourd'hui des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés. Quels sont les vaccins obligatoires? Quels sont les vaccins recommandés? Est-ce que cette politique est encore bien lisible? Moi-même, je dois dire que je m'y suis un peu perdu, Frédéric Tanguy.
C'est simple. Il y a un vaccin obligatoire, c'est le DTP. Tous les autres sont
diphtérie, tétanos, polio.
Diphtérie, tétanos, polio, c'est le seul vaccin obligatoire. Donc ça, c'est simple. Alors, c'est vrai qu'on va y venir, il y a le problème des tétras, pentavalents, tout ça, c'est un autre problème. Mais tous les autres vaccins sont recommandés et les médecins pédiatres, dans leur extrême majorité, les recommandent, bien évidemment.
Ça veut dire qu'un vaccin recommandé, c'est moins important qu'un vaccin obligatoire, Brigitte Autran ?
Pas du tout. Le fait qu'un vaccin soit obligatoire revient à l'histoire. Et ces vaccins diphtérie tétanos, ils ont été rendus obligatoires dans les années 20 ou dans les années 30. Donc on était très très proche de l'introduction de l'obligation vaccinale contre la variole. Et puis en même temps, on a obligé à réaliser la vaccination contre la tuberculose. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'obliger les populations à se faire vacciner et qu'on pouvait tout simplement les convaincre en recommandant les vaccinations. Donc aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays européens, on est sur une stratégie, je dirais, où on cherche plutôt à convaincre et à recommander plutôt qu'à rendre obligatoire. Aux États-Unis, un très grand nombre de vaccins sont obligatoires.
Et donc c'est Europe, vraiment... en revanche, on est l'un des derniers pays à avoir
non,
des vaccins.
Non, l'Italie et l'Espagne ont également, et la Belgique ont également des vaccins obligatoires.
Mais entre ce qui est obligatoire et ce qui est très fortement recommandé, c'est-à-dire si vous mettez votre enfant au jardin d'enfants ou à l'école maternelle, si son carnet de vaccination n'est pas complet, on va vous demander de le compléter.
Voilà.
Donc ça équivaut à être obligatoire. Ce qui est une porte de sortie.
Voilà.
En même temps, on n'est
pas... Dans la même veine, on ne peut pas être professionnel de santé, on ne peut pas faire de la recherche en laboratoire sur des prélèvements humains sans être vacciné contre l'hépatite B. L'hépatite B est une maladie mortelle et on ne peut pas prendre le risque de se contaminer.
Néanmoins, cette double politique obligatoire recommandation, elle est déjà difficilement lisible pour tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est recommandé si c'est tout aussi important que les vaccins obligatoires? Et ensuite, le BCG qui était obligatoire est devenu recommandé en 2004. Alors, et ensuite, je vais en rajouter une louche, Brigitte Autran. Vous nous dites qu'il n'y a plus de polio en France et pourtant c'est toujours obligatoire. Quelle est la logique dans tout ça?
Donc, la logique, le vaccin contre le BCG, vaccin contre la tuberculose, était obligatoire. En 2007, on a décidé de ne plus le rendre obligatoire, car le risque de tuberculose grave, contre lequel protège le BCG, est infime en France. Par contre, donc, on a dit, on supprime l'obligation vaccinale. Par contre, on le recommande dans toutes les régions de France, et c'est le cas particulièrement en Île-de-France, où il y a un risque d'exposition à la tuberculose important.
Ce qu'on appelle l'obligation ciblée.
Non, ça n'est pas une obligation, c'est une recommandation vaccinale. Donc un enfant qui naît en Île-de-France, il naîtrait dans la grande banlieue londonienne, ça serait la même chose. Donc dans des régions où il y a un très grand, des très grands mélanges de populations, là le risque d'exposition à la tuberculose est important.
Frédéric Tanguy,
c'est vrai, vous avez raison que ce n'est pas lisible. Quand on dit la tuberculose n'est plus obligatoire, les gens disent si c'est pas obligatoire, c'est que c'est pas dangereux ou il y a plus de tuberculose. Alors comment ça se fait que c'était dangereux avant et tout d'un coup, ou alors c'est pas dangereux, ou alors le vaccin est dangereux puisque tout d'un coup le vaccin n'est plus obligatoire, ça veut dire qu'on s'est aperçu qu'il était dangereux. C'est compliqué, c'est parce que on est peut-être trop démocrate en Europe. Aux États-Unis, on pose pas la question au public. C'est obligatoire, point. Et tu ne discutes pas. Parce que si tu ne l'as pas, t'as pas ça, tu rentres pas à l'école, tout ça. Ici, on pose la question. Alors, on peut pas à la fois réclamer plus d'ouverture, plus de compréhension, et se dire on est des imbéciles, on comprend pas parce que c'est trop compliqué. C'est pas compliqué, voilà. C'est pas vrai, voilà.
Mais
c'est pas
vrai,
si compliqué.
Voilà. Il est vrai que l'organisme qui fait les recommandations vaccinales, le CTV dont je fais partie, se pose la question du bien fondé de maintenir l'obligation vaccinale diphtérie, tétanos, polio.
D'autant, je vous coupe, Brigitte Autran, tout de même, je le redis, parce que le dernier cas de polio et de diphtérie autochtone, donc non importé, date de 89. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une vaccination obligatoire pour le DTP?
Nous sommes à une période depuis longtemps déjà où nous, nos enfants, nos parents, nos grands-parents voyagent partout dans le monde. Nous vivons dans un monde sans frontières. Même Schengen, même les douanes, la fermeture des frontières ne serait pas une barrière aux microbes. Et donc, on ne peut pas être complètement schizophrène et dire « je veux voyager partout dans le monde, mais il n'y a plus de polio autochtone, donc je ne me vaccine pas contre la polio. » Il reste de la polio dans le monde. La polio est une maladie gravissime. La diphtérie tue. Le tétanos tue. Alors, c'est quand même fou de vouloir s'exposer à des maladies qui tuent ou qui détériorent la vie, alors qu'on peut se protéger.
Pour ne pas prendre un vaccin qui est totalement bénin, qui est administré à un bébé qui s'en souviendra jamais de sa vie et qu'on utilise depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans sans aucun problème. Donc pourquoi se plaindre de ça? Il faut être lisible.
On ne va pas rentrer dans les mémoires traumatiques des nouveau-nés.
Oui, bien sûr. Le principe en France, c'est de dire c'est le médecin de famille, c'est le pédiatre de quartier qui s'est chargé de ça. Donc il y a peut-être un déficit, c'est vrai.
Alors,
Brigitte et moi, on est d'accord là-dessus. Formation des médecins.
Parlons-en des médecins, puisque, alors, sans rentrer donc encore une fois sur cette question d'obligation de recommandation et de difficulté de lisibilité, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, effectivement, il y a des chiffres, des études qui ont été faites, et alors, les médecins sont en grande majorité, les médecins généralistes, favorables à la vaccination, 9 sur 10 pensent que l'utilité du vaccin ne fait plus aucun doute. Ça veut dire que 10% des généralistes doutent de la vaccination. 10%, c'est pas un petit pourcentage, Brigitte
Autran. Alors, je suis professeure à la faculté de médecine, et les facultés de médecine françaises n'ont jamais été très intéressées par l'éducation et la prévention. Donc ça, c'est un point qu'il faut regretter. Si on compare à la formation des médecins en Angleterre, la formation à la prévention en Angleterre est bien plus importante qu'elle ne l'est en France. Dans notre faculté de médecine à Pitié-Salpêtrière, nous avons convaincu notre doyen de renforcer la formation des médecins sur la vaccination et je pense qu'on y arrive. Voilà, je crois que d'abord, il y a un déficit de formation des médecins. Ensuite, il faut informer et réinformer de façon périodique, expliquer l'intérêt de la vaccination. Je reviens à l'obligation vaccinale et à la politique et à l'implication du médecin généraliste. D'une certaine façon, quand l'État prend la décision de rendre une vaccination obligatoire, il soulage un tout petit peu le généraliste ou le pédiatre de la nécessité d'avoir à convaincre les familles auxquelles il a affaire. Car voilà, il faut faire la vaccination. Donc il faut aussi
deux médecins sur trois se disent désarmés au moment d'essayer de convaincre justement leurs patients pourquoi il faut se faire vacciner.
C'est compliqué. Ils préfèrent baisser les bras. C'est compliqué de convaincre. Et encore une fois, en Angleterre, on encourage bien plus les généralistes qu'on ne le fait en France à vacciner les familles.
Oui, on se souvient qu'au moment justement de la grippe H1N1 dont on a parlé, de la grippe pandémique dont on a parlé tout à l'heure, un médecin et homme politique célèbre en France a quasiment recommandé en direct sur les ondes de ne pas se faire vacciner. Et le résultat, c'est que les taux de vaccination parmi la population médicale, infirmiers comme médecins, étaient catastrophiquement basses en France. Ce qui est un scandale. Parce que si cette grippe avait été ce qu'on attendait au départ en termes de mortalité, ça aurait été une catastrophe en France, bien plus qu'ailleurs. Donc il faut être responsable, et c'est vrai que si les médecins sont formés à la prévention, ils sont capables très simplement, comme ce qu'on vous a dit aujourd'hui, d'expliquer aux patients pour quelles raisons il faut se protéger de telle maladie ou de telle autre.
Et je me retourne vers vous, Brigitte Autran, membre du comité technique des vaccinations, avec un nouveau chiffre que je sors de ma besace. Un médecin généraliste sur quatre pense que les vaccins recommandés sont inutiles. Il y a là, encore une fois, il faut le reconnaître, un problème de lisibilité.
Je pense que vous simplifiez un tout petit peu l'énoncé et que un médecin sur quatre ou sur six pense que certains vaccins recommandés sont inutiles. Mais pas tous les vaccins recommandés.
C'est un doute malgré tout.
Voilà. Un médecin généraliste est lui-même convaincu que la recommandation du vaccin contre l'hépatite B est parfaitement justifiée. La vaccination contre la coqueluche dont on a parlé tout à l'heure, attention, la coqueluche peut tuer des enfants de moins d'un an. Donc la vaccination contre la coqueluche, même si elle n'est pas obligatoire, elle est extrêmement fortement recommandée.
Un tout dernier mot pour signaler à nos auditeurs qu'il y a une concertation nationale qui est en cours, qui a été lancée par le ministère de la Santé sur contrib.concertation-vaccination.fr. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour aller donner vos avis. Vous pensez que cette concertation, en quelques mots, cette concertation, elle peut porter ses fruits selon vous, Frédéric Tanguy?
On espère. Moi, je
réconcilier
doute.
Les Français avec la vaccination.
On espère, mais c'est très très difficile. Vous avez vu, les messages sont relativement simples à véhiculer par un médecin, mais difficiles par la population. Et c'est toujours. Moi, je pense que c'est toujours très difficile de demander son avis à tout le monde sur un problème aussi complexe. Encore une fois, dans les pays où on a parfaitement contrôlé la rougeole, c'est les États-Unis, c'est l'URSS. On ne demande pas l'avis aux populations et on vaccine. Point.
Alors, Brigitte Autran, il faut plus d'autorité sur la vaccination.
Frédéric. Non, je pense que cette consultation, ce grand jury citoyen, il aura été utile justement pour montrer qu'il n'y a pas d'omerta et qu'on peut discuter des vaccins. Moi, j'ai moi-même participé au grand jury citoyen et je pense qu'il en sortira quelque chose de bon, j'espère.
Eh bien, espérons-le avec vous, Brigitte Autran, Frédéric Tanguy. Merci infiniment d'avoir été nos invités. J'espère qu'on aura levé quelques questions, quelques doutes concernant cette politique vaccinale en France. Et puis, je profite des dernières secondes qui nous restent pour vous annoncer que vous pourrez venir voir la méthode scientifique en direct jeudi. Nous serons à la Cité des Sciences pour une émission en public à l'occasion de la Fête des Sciences. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Léo Quentin et Antoine Beauchamp. À la réalisation, comme chaque jour, Elisabeth Miro, à la technique Bruno Gagnère-Fontani et au droit d'auteur Ben Karsmarek. Demain, nous irons voir dans l'espace s'il fait plus beau que sur Terre. Nous nous envolons dans l'espace avec deux Français qui ont déjà passé un petit bout de temps. Claudie Aigneret et Jean-François Clairvoyt seront nos invités. Dans un instant, les diamants sont éternels, surtout sous LSD. La série documentaire de Perrine Kervran consacrée cette semaine au précieux carbone haute pression. Nous, on se retrouve demain 16h, jusqu'à preuve du contraire.